Bonjour à tous, je m'appelle Inès de la Motte Saint-Pierre, je travaille pour la Grande Librairie et on va commencer cette rencontre. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux grands connaisseurs de l'œuvre de Marcel Proust, ou en tout cas deux grandes personnalités qui ont travaillé de manière différente autour de la personnalité de Marcel Proust. Donc vous d'abord, Charles Danzig, vous avez ce magnifique livre qui s'appelle Proust Océan. Un océan, une plongée ébouriffante dans une œuvre éblouissante. Moi, ça m'a éblouie, en tout cas, en tant que lectrice. J'ai appris vraiment des choses merveilleuses que je ne savais pas et j'ai compris des choses que je n'avais jamais compris. Donc, je vous remercie. Et vous, Stéphane Manel, vous choisissez la poésie et la grâce pour faire vivre Marcel et sa dernière gouvernante qui s'appelle Céleste Albaret, qui a publié en 1973 un livre qui s'appelle Monsieur Proust et que vous adaptez avec merveille. Alors, avant de commencer, c'est à vous que je vais poser une question. Je voudrais savoir qui dans cette salle a lu Marcel Proust. Non, alors on commence par ceux qui ont lu Marcel Proust, déjà. Et qui a
vous
lu...
Sortez.
Les... Donc il y a quand même une assemblée de Proustiens. Et qui a lu l'ensemble des 7 volumes?
Sors.
3. Alors, je voudrais savoir, avant de rentrer plus précisément, comment vous avez découvert l'œuvre de Marcel Proust. C'est un écrivain intimidant, on le sait, mais comment vous avez réussi à rentrer dans son œuvre en premier?
Oh, réussi, ça sous-entend que ça serait difficile. Moi, je n'ai jamais trouvé que c'était difficile ni compliqué. Moi, je prétends que Proust est un écrivain facile à lire. Et pour moi, en tout cas, j'ai lu la première fois La recherche du temps perdu à 17 ans. J'ai fait presque des études pour ça. J'ai fait des études de droit qui n'étaient pas dans ma famille.
Ça paraît pas évident sur le papier quand vous dites j'ai fait des études de droit.
Ouais,
pour ça.
Voyez, voyez.
Ouais.
Non, mais j'ai fait des études de droit pour ça parce que c'était pas des choses qu'on faisait dans ma famille, donc je voulais qu'on me fiche la paix, je voulais ne rien faire et c'était une époque où on foutait rien en droit, je crois. Et en tout cas, moi, en première année, j'ai lu en première année de droit, ça m'a servi à lire La recherche du temps perdu, chose que j'aurais pas pu faire si j'avais fait Hippocagne et Cagne ou un truc comme ça, on n'a pas le temps. Et donc, ma première expérience était ça. J'ai le souvenir assez vif que la première fois j'ai compris et en même temps je n'ai pas compris. C'est-à-dire que je comprenais qu'on me racontait un certain type d'aventure, d'un petit garçon ultra sensible, blablabla, des histoires mondaines. Mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Voilà. J'ai lu, j'ai compris, mais je me disais à quoi ça sert. Et c'est la deuxième fois que je l'ai lu, peu d'années après d'ailleurs, que là j'ai compris qu'un monde s'offrait à moi et qu'on pénétrait dans un monde extrêmement singulier qui était bien autre chose qu'une succession d'aventures comme un roman classique.
Donc il vous a fallu deux lectures pour rentrer réellement dans l'univers de Marcel Proust.
Oui, mais ça c'était de ma faute. Vous savez, quand on a un peu, je crois qu'il y a un rapport au fond très simple et assez capitaliste du lecteur avec l'auteur. C'est-à-dire, on paye 20 euros et il n'est pas question qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne s'embête pas. Donc, on a un rapport de supériorité vis-à-vis d'un livre qu'on achète. Et donc, si au début, la première fois, je ne suis pas rentré dans Proust, ce n'était pas sa faute à lui, c'était sa faute à moi. Et voilà.
Et vous, Stéphane ?
Moi, je crois que c'est à cause d'autres auteurs. C'est-à-dire, à force de lire des auteurs que j'aimais, contemporain plus ou moins, le mot Proust revenait sans arrêt, sans cesse, de Modiano à machin, ou Modiano qu'on comparait déjà à l'époque à Proust, fait que c'était comme une étape obligatoire qu'on n'est pas obligé de franchir ou de passer, et ça s'est fait comme ça. Je crois que la première fois, j'ai essayé il y a 30 ans, ça me passionne, mais je ne vais pas plus loin, les choses de la vie font que, et puis je le reprends à 40 et je le relis 3 fois, en fait. Mais après, j'ai l'avantage d'être en étant dessinateur, ce qu'on peut faire aussi, c'est lire sans lire, c'est-à-dire c'est écouter. Et ma deuxième lecture de Proust, c'était aussi une écoute autant qu'une lecture. J'alternais les deux. C'est-à-dire qu'en dessinant,
une lecture audio.
Oui, oui, par. C'est drôle parce que l'autre jour, j'étais avec lui sur un plateau télé, Dussolier, il y avait. Je ne sais plus s'il n'y avait pas Trintignant, enfin des gens comme ça. Et c'était très bien. C'est aussi un bon moyen de. Si la lecture vous pèse, de passer par ce biais-là qui est intéressant. Et puis, et une accroche immédiate, pareil, comme le dit Charles, de quelque chose d'évident. Enfin effectivement, au départ, on peut se dire que c'est un récit d'une certaine bourgeoisie. C'est une histoire où il ne se passe rien, a priori, donc c'est assez compliqué d'y pénétrer. Mais en fait, il se passe tout ce qui peut se passer dans la tête d'un homme. Et et tous les souvenirs qu'on a tous en nous, je pense, et toutes les émotions, et c'est lui qui les retranscrit de cette façon-là. Et c'est pour ça, je pense, qu'il nous touche. Il n'y a pas de péripétie plus que ça dans la recherche. Il y a pas.
Et en même temps, on peut dire que c'est le plus grand roman d'aventure du XXe siècle.
Absolument.
Aussi, parce que c'est les péripéties. Enfin, souvent, on appelle action dans un roman le sport. C'est-à-dire quand ça bouge, quand les personnages sortent des épées, se battent, vont à Casablanca.
Alexandre Dumas,
en quelque sorte. Et au fond, l'action, c'est pas ça. Ça, c'est du mouvement. L'action dans Proust, elle est partout et tout le temps. Sauf que c'est l'aventure de la création. Puisqu'on sait très bien que le narrateur de La Recherche du Temps Perdu est quelqu'un qui, pendant 3000 pages, cherche à devenir écrivain. Et c'est ça que ça nous raconte, avec toutes les aventures et toutes les tumultueuses aventures au fond de la création. Et donc, en réalité, c'est très aventureux.
Et vous, vous dites qu'il faut prendre sa respiration pour rentrer dans l'œuvre de Proust.
Oui, car je crois encore une fois que Proust n'est pas un écrivain compliqué, n'est réellement pas compliqué. Ça n'est pas comme James Joyce. On prend Ulysse, qu'au demeurant, j'aime beaucoup. Ulysse est un roman compliqué, un roman érudit où il faut des références. Joyce n'arrête pas de faire des références à la littérature antique. Il faut des notes en bas de page pour comprendre toutes les allusions que Joyce fait. Proust, pas du tout. Proust est un écrivain qui dit tout, qui met tout sur la table, qui a un vocabulaire excessivement simple, pour commencer, à la différence de Joyce en particulier, mais de beaucoup d'autres. Son vocabulaire est simple. La seule apparente complication de Proust, c'est son rythme. Parce que les phrases sont supposément longues. Certaines sont longues, toutes ne le sont pas. D'ailleurs, il y a une variation de rythme dans Proust très, 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 très manifeste. Mais mettons que ces phrases soient longues, eh bien, il faut s'adapter exactement comme une plongée sous-marine. Les phrases de Proust sont un peu longues, mais il faut s'adapter aussi, je pense, pour la lecture de Stendhal, qui est un écrivain que j'adore, mais qui est un écrivain saccadé. On peut pas, chaque écrivain a son rythme, il faut s'adapter à ce rythme-là. La singularité du rythme de Proust est qu'il est plus lent, et plus, mais ça n'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a vraiment pas de complication, de barrage de lecture érudite pour accéder à Proust.
Est-ce que vous étiez aussi intéressé au personnage de Céleste Albaret, du coup, qui est qui est évidemment ce que Stéphane choisit pour nous faire rentrer dans l'œuvre et la vie de Marcel Proust?
Je m'intéressais plus au personnage Céleste. C'est assez amusant parce qu'elle se met à avoir maintenant une...
Elle est cool, comme on dit.
Non, elle n'est pas cool.
Elle est cool dans le sens où elle est aussi l'une des stars de ce centenaire, en réalité.
Oui, c'est assez bizarre parce qu'en réalité... Mais enfin, c'est toujours comme ça. Quand un grand écrivain gagne, il entraîne avec lui toute une charrette de gens qui n'étaient pas faits pour ça. Mais tous les amis de Proust sont comme ça. Je pourrais citer des tas d'écrivains qu'on réédite et qu'on oublie un peu, Fernand Gregg ou des gens comme ça, simplement parce qu'ils étaient des amis de Proust. Et Céleste, c'est amusant parce qu'en fait, elle est revenue à cause d'un livre qu'un journaliste lui a écrit dans les années 70, je crois.
1973.
C'est ça, 73. Et qui était un journaliste de François et qui a mis ça en forme. Et on finit par croire, plus il y a eu des entretiens radiophoniques, on finit par croire tout ce que Céleste dit comme si ce que Céleste dit était la vérité, ce qui n'est pas le cas. C'est pas très grave d'ailleurs, elle a sa version à elle, mais ce que Céleste Albaret sait, c'est ce qu'une domestique sait, c'est-à-dire peu de choses. Par-dessus le marché, elle a réécrit l'histoire avec l'aide de Belmont, qui est le journaliste qui l'a interviewé après. Et donc, ça n'est pas grave, mais elle véhicule une chose qui, à mon avis, est assez... Enfin, il faut pas prendre au pied de la lettre ce que Céleste dit.
Est-ce que Stéphane, vous avez pris ce travail de mémoire quand même, puisque c'est un travail de mémoire qu'elle fait, comme de l'argent comptant, comme quelque chose qui serait la réalité?
Non, on le savait, c'est son prisme à elle, et effectivement, il est parfaitement biaisé. Enfin, elle a quelque chose de... Elle refusait même de voir son homosexualité, il rentrait... Enfin, il y a des choses qu'elle n'a pas voulu voir. Elle est un peu devenue une gardienne du temple avec sa version des faits. Elle l'a un peu puritanisée. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Et
pardonnez-moi, ce qui était amusant, parce qu'à la fin de sa vie, elle tenait un bordel.
Et qu'elle n'aurait pas non plus été irréprochable sur la tenue de la maison Ravel, parce qu'après, elle s'est occupée de la maison de Ravel. Il y avait des histoires. Enfin, c'est assez curieux.
Et d'ailleurs, il y a une légende qu'on n'a pas trop entendue là pour ce centenaire, une légende sur Proust qui vient... qui est, à mon avis, tout à fait inventé, qui vient du livre de Céleste Albaret, qui est l'idée que Proust crevait les yeux des rats pour éprouver quelque chose. Qui est une chose complètement controuvée.
C'est ce qu'on appelle une légende.
C'est une légende, ouais. C'est complètement contrôlé. Vous cherchez ça dans les mémoires des contemporains. Proust n'a évidemment jamais fait ça, mais voilà, ça s'est répandu comme ça. Et c'est intéressant d'ailleurs le phénomène de légende.
Mais du coup, Stéphane, pour revenir à l'adaptation, aux dessins que tu fais, qui sont merveilleux vraiment, je le redis, de poésie et de grâce, pourquoi faire ce travail-là? Pourquoi sur justement ce livre paru en 1973, qui est un travail de mémoire, mais qui n'est pas l'adaptation de la recherche, par exemple?
Non, non, pas du tout. Bah, l'adaptation de la recherche...
Pas l'adaptation de la recherche, mais la mise en image de la recherche.
Non, non, pas du tout. Je pense que c'est un moyen d'entrer aussi en Proust, s'il en fallait un, par l'image. Des nombreux témoignages qu'on a de lecture prouvent ça, mais c'était aussi un plaisir de parler de Proust sans justement... en pouvant peut-être aussi un peu expliquer qui est finalement Montesquieu par rapport à Charlus, qui est, c'était cette façon-là de pouvoir parler un peu à côté de la recherche, en parlant un tout petit peu, sans rentrer justement dans la romance de toute la recherche, et en faisant finalement quelque chose de facile, parce que je pense que par Céleste, par cette voix du peuple finalement, on accède à cette chose qui paraît impensable. On a l'impression qu'il est en haut de sa cathédrale ou de sa tour d'ivoire, et c'est absolument pas le cas.
C'est ce qu'on ressent d'ailleurs en lisant, ce livre.
Mais il n'était pas question non plus d'humaniser complètement Marcel Proust en faisant quelqu'un qui allait faire ses courses. Non, c'est de voir comment leur rapport était simple et assez amusant. Et je pense que malgré le parti pris qu'elle a, enfin tout ce qu'elle a pu conserver et retranscrire, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Après, mais comme tous les puristes autour de Proust s'attachent à une vérité extrêmement précise, tout le monde pense que tout ça n'est pas exactement reproduit. Je pense que c'est ça.
Alors, quel est justement le personnage de la recherche que vous aimez le plus l'un et l'autre? S'il faut parler de Proust et de son œuvre.
Celui que j'attends à chaque page, c'est Charlus. Moi.
Pourquoi?
Pour son côté fantasque, on ne sait pas quelle va être sa réaction. Il y a un truc extrêmement provocant. C'est quand même quelqu'un, apparemment... à l'origine, donc il viendrait de Montesquieu, mais aussi certainement d'autres personnages, mais beaucoup de du comte de Montesquieu. Et ce Montesquieu avait aussi inspiré le Des Esseintes de Huysmans et le Paché Barbé de Révili, comment il s'appelle. Et un autre personnage de cette littérature un peu symboliste de l'époque, j'ai oublié le troisième, mais c'était un de ces personnages noirs. Je ne sais plus, j'ai un énorme blanc, mais. Donc c'était quelque chose, et en même temps Proust s'en moquait au quotidien avec Céleste en disant il nous embête avec ses poèmes de chauve-souris, il se foutait littéralement de lui quand même. Mais quand Montesquieu est mort, moi j'ai vu en lisant leur correspondance, Proust n'a même pas voulu croire à sa mort. Il était là, c'est pas possible, il nous fait un de ses derniers coups. Et en fait je pense que c'est cette personne là qui l'avait aussi amené un certain esthétisme au goût des belles lettres, à pas mal de choses qui font que... Donc il en fait un personnage extrêmement attachant, un personnage totalement antipathique, et c'est ça qui est très agréable, je trouve, dans le... Enfin, moi, c'est mon préféré, voilà.
Le baron Charlus.
C'est difficile d'en choisir un seul. Si je devais prendre une femme, je prendrais Oriane de Guermantes, parce que elle est, comme vous le disiez, pour Charlus, mais c'est le cas de tous... pour Charlus, d'ailleurs. Je crois qu'on doit plutôt dire Charlus parce qu'il est originaire de Bourgogne, et en Bourgogne on dit tournu et pas tournus, donc je me dis que... Mais c'est pas très sûr parce que dans la famille ils ont des manières un peu bizarres de prononcer. Bref, en tout cas tous les personnages ne sont jamais d'un plan chez Proust, comme chez tous les bons romanciers. Donc j'aime beaucoup dans Oriane de Guermantes son charme fou, sa langue assez acérée, elle est très spirituelle. On dit que Proust s'est inspiré pour son esprit de famille, puisqu'elle passe pour avoir l'esprit des Guermantes, et il s'est inspiré d'un passage du siècle de Louis XIV de Voltaire, mais on le retrouve d'ailleurs dans Saint-Simon où on parle de l'esprit des Mortemart, où toutes les femmes de la famille Mortemart étaient comme ça. Donc cet esprit de bande d'Oriane est très charmant, elle est très belle, elle est très élégante, elle a un petit bouton ici. Et le bouton est intéressant parce que le bouton, c'est l'écrivain en train d'écrire. Ce que je trouve de passionnant dans Proust, c'est que c'est un peu comme dans Cézanne, quand il y a des morceaux de toile qui sont accrus. Dans le texte de La recherche de temps perdu, comme Proust est mort à 51 ans, qui n'a pas eu le temps de tout corriger, il y a des imperfections. Et je trouve ça merveilleux. Et on le voit en train d'écrire. Eh bien, pour moi, le petit bouton-là qu'il ajoute au coin du visage, au coin du nez d'Oriane de Guermantes, est un truc où on voit Proust se dire « je vais avoir l'air d'un faillot, il ne faut pas qu'elle soit parfaite, elle est déjà duchesse, il ne faut pas que j'ai l'air d'un roman de gare ». Et ça, ça arrive souvent. Les romanciers ont des problèmes avec les personnages beaux. Parce que c'est toujours gênant de décrire un personnage beau. Le seul qui le faisait, je crois, sans complexe, c'était Stendhal. Mais donc Proust ajoute son petit bouton au coin du nez. Elle est cruelle aussi.
Et ça vous plaît ?
Ben non, ça complète le personnage.
Ça
complète le personnage, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très spirituelle, très brillante, très belle et tout ce qu'on veut, et en même temps, elle peut être aussi d'une cruauté affreuse, puisque par exemple, elle refuse un jour de sortie à un de ses domestiques, un jour où elle sait qu'il doit aller voir sa petite amie. Et pire encore, elle refuse une recommandation pour son neveu Robert de Saint-Loup pour la guerre de 14. Et justement, dans les personnages masculins, un de mes préférés serait Robert de Saint-Loup, qui est donc le neveu d'Oriane de Guermantes, et celui par qui le narrateur cherche justement à entrer en contact avec Oriane de Guermantes. Et tout est charmant dans Saint-Loup pour moi, c'est-à-dire que c'est un homme de l'âge du narrateur, un jeune homme au début, et il est élégant, il est paradoxal, il est assez beau, il a des yeux de mer, dit le narrateur, il a des manières, un peu, il est assez maladroit et empêtré. La première scène où il apparaît, je pense d'ailleurs que Marcel Proust a inventé le dessin animé, parce que la première scène où Robert de Saint-Loup apparaît, c'est à la campagne, et le narrateur le décrit. Il est grand et il marche de manière un peu empêtrée, en tricotant des jambes comme ça. Il dit qu'il courait après son monocle, tellement il marchait vite. Il avait son monocle au bout d'un ruban comme ça, qui est évidemment une chose qui n'existe pas dans la vie, c'est on dirait du dessin animé. Et Saint-Loup a à la fois ce charme fou, cette élégance. Il invente des trucs que tout Paris recopie. Par exemple, il y a une manière de s'asseoir dans les salons. Quand il arrive dans un salon, au lieu de faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire de tendre son chapeau au domestique à l'entrée pour qu'on le mette au vestiaire, il le garde avec lui et il le pose à l'envers par terre. Et le narrateur raconte que ça paraissait tellement chic que tout le monde imitait ça et que tout Paris mettait son chapeau à l'envers par terre. Mais il y a ces côtés futiles et frivoles de Saint-Loup, mais il y a aussi son très grand courage, parce que c'était un héros de la guerre de 14 et qui meurt d'ailleurs au combat. Et ce qui est très très Proust dans Robert de Saint-Loup, c'est le blasphème. Parce que Proust est un très grand blasphémateur. En réalité, Proust a l'air d'une faillotte, a l'air d'un mondain, d'un collabo du Figaro et tout ça. Pas du tout. Proust est le plus grand et le plus grand blasphémateur qui puisse exister. Et on le voit très particulièrement avec Robert de Saint-Loup, qui donc est lieutenant en 14, revient en permission. Il a été tellement courageux qu'il a gagné une croix de guerre. Et que se passe-t-il dans La recherche du temps perdu ? C'est qu'avant de repartir pour la guerre, Saint-Loup va au bordel et perd sa croix de guerre au bordel. Et ça, c'est tout à fait Proust. Tout à fait Proust. C'est-à-dire, pour moi, La recherche du temps perdu est le roman de la destruction de toutes les réputations. Tout ce qui est réputé bien au début de la recherche, on se rend compte que c'est pas bien, et vice-versa. Et donc, on a cet homme qui est un héros de la guerre de 14, qui perd sa croix au bordel, mais qui repart à la guerre et qui est tellement courageux qu'il se fait tuer au front. Et d'ailleurs, si je peux ajouter un dernier mot à ce sujet, c'est que pour moi, le génie de Proust est que Robert de Saint-Loup est tué le surlendemain de son arrivée. Un écrivain banal aurait tué, si je puis dire, Robert de Saint-Loup le lendemain, genre théâtral. Oh, il venait à peine d'arriver, il prit son fusil, paf, la tranchée, il est tué. Pas du tout. Et le génie de l'écrivain, c'est dans le surlendemain. Voilà, l'autre génie de Proust, c'est qu'il n'est que dans le surlendemain.
Et est-ce que l'esthétique, Stéphane, du coup, de Proust, comme ça, ce sens du détail dont vous parliez extrêmement bien là, il y a deux minutes, vous a influencé dans votre dessin même ? Parce qu'on s'attaque pas à cette œuvre-là ou à cet univers-là comme à un autre.
Non, mais j'ai voulu m'en affranchir parce que de toute façon, toute l'iconographie était extrêmement limitée, ne serait-ce que pour Proust. Quelques photos de lui jeune, deux, trois photos, dont finalement un portrait peint, qui est le plus connu, celui de Jacques-Émile Blanche, et c'est tout. Donc il faut... je me l'approprie. Parfois, je ne lui fais pas la même forme de nez, tout ça. Et puis après, tout ce qui est documentation, c'est drôle parce que la fille qui écrivait, Corinne Maillère, qui a fait toute l'adaptation graphique, un jour, je lui ai dit, écoute Céleste, j'ai trois photos, qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Elle m'a dit, inspire-toi de Gabriel Chanel. D'après ce que j'ai entendu comme témoignage, elle aurait le même. Donc bon, c'est des petites pistes comme ça. Et puis après, je cherche. Et puis, toute façon, une rue de Paris en 1892 ou en 1920, elle se signale avec trois traits. C'est assez... J'ai toujours regardé sans paix, même si j'ai rien à voir avec son trait. C'est des choses qui peuvent s'évanouir. Tout est possible. On est le propre metteur en scène de son trait, donc on fait avec ce qu'on a. Et on s'arrange avec tout ça. Et puis, de temps, oui, à un moment, la cafetière corcelée sera la cafetière qu'il utilisait. Parce que ça, il ne faut pas tricher. Ou même le billet de banque qu'elle prend dans un tiroir est vraiment un billet de banque de l'époque. Mais je pense que ce n'est pas très important. On s'en fiche un peu.
Si Céleste était là, elle ferait couper le. Ouais. Elle apporterait la police de Marseille.
C'est ça.
Elle
a des courants d'air.
Il fait très, très froid, oui.
Tout d'un coup. D'ailleurs,
tout d'un coup.
Vous parliez de Gabriel Chanel et vous, Charles, vous dites souvent que Proust est un peu comme Chanel, c'est devenu une marque presque,
ah oui,
une icône.
Ah oui, pas comme Gabriel, oui.
Oui, pas comme Gabriel, mais comme la marque
bien
Chanel.
Bien sûr,
ouais.
Mais oui, il y a, je sais pas quoi, il y a Saint-Laurent, il y a Chanel et il y a Proust, c'est devenu une marque. Alors ça le sert, évidemment, c'est toujours bien de devenir une marque parce qu'au moins le nom est répandu, mais ça fait probablement aussi que les gens se font une idée. Et déjà, la simple expression de dire se faire une idée, ça veut dire que l'idée est fausse. Donc ça crée peut-être cette idée un peu intimidante et à mon avis erronée, parce qu'il faut être très familier avec tous les écrivains, parce que les écrivains sont des êtres humains, vous voyez, et il n'y a aucune raison de considérer que ce sont des...
On n'en a jamais douté.
Non, mais je veux dire, quand ils sont morts, on pense qu'ils se sont transformés en statues, il y a une espèce de respect, cette notion atroce du respect qui arrive vis-à-vis des écrivains, il n'y a aucune raison de respecter les écrivains. Pour revenir à ce que vous disiez là, sur les détails et le dessin, Proust lui-même décrit très très peu. Proust n'est pas un descripteur, d'ailleurs il est bien mieux que descripteur, il est dans les choses, et les choses qu'il décrit sont toujours... Moi ça m'a frappé, je le dis dans mon livre par exemple, vous n'avez dans Proust aucune description de mobilier,
et
ce qui est une chose très frappante, ouais. Aucune description, on pourrait penser cet écrivain si raffiné, etc., qui décrit la mondanité, il n'y a pas une description de meuble.
Là aussi c'est une image qu'on a de Proust.
Oui, c'est une image qu'on a de Proust, et c'est intéressant parce que Proust ne décrit des choses que dans la mesure où elles sont utiles à ses personnages. C'est un roman de personnages. Et donc, les meubles n'ont aucun intérêt psychologique ou sensible pour ses personnages, et donc il ne les décrit pas. Il décrit de temps en temps une robe, la robe rouge d'Oriane de Guermantes, parce qu'elle lui permet une scène où son mari l'engueule, Bazin de Guermantes, qui est son mari, qui est un sale con, qui la trompe, qui est idiot, qui me rappelle un académicien français que nous connaissons.
Qu'il faut des noms maintenant, hein. Vous êtes obligés.
À mort, évidemment. Mais ça lui sert la robe à décrire un état psychologique, mais de la même façon que vous n'avez pas de nourriture dans Proust. C'est très frappant. Il y a juste, par exemple, le personnage de la bonne dans Proust est montré à un certain moment plumant un poulet. Et Proust et la mère de Proust voient la bonne en train d'égorger le poulet, et il décrit la bonne avec une hache en disant « à sale bête » parce que le poulet n'en finit pas de mourir et qu'elle n'arrive pas à détacher sa tête du corps. Mais ça, c'est pour montrer que la bonne est à la fois affectueuse et gentille et aussi très dure. Car il faut dire que Proust, on parlait de Céleste, il y a un truc... Dans Proust, le personnel est assez canin.
Oui.
C'est-à-dire que le personnel est fidèle et un peu grognon. Oui. Et donc, les personnages de domestiques sont assez comme ça. Quoi.
Non, mais c'est drôle ce que vous dites à propos du mobilier qui n'est pas décrit, parce que, et vous parliez tout à l'heure de la bande dessinée qu'il aurait, enfin, ou du dessin animé qu'il aurait anticipé avec le monocle.
Avec le monocle.
Finalement, c'est la même chose. S'il décrit du mobilier, c'est parce qu'il en a besoin. Et dans les dessins animés, souvent les vieux de Mickey ou je ne sais pas quoi... Le personnage n'a pas de montre, par exemple, et tout d'un coup, s'il a besoin de savoir l'heure, il aura une énorme montre au poignet et qui disparaîtra le plan d'après. C'est pareil chez lui. Et je pense qu'aussi, il vivait dans cette espèce de nudité dont il avait... Son appart n'était pas plus décoré que ça. Il y avait des bâches sur les sièges et je crois qu'il se foutait totalement de son...
Il avait un goût atroce.
Oui, je pense.
Un goût atroce. L'appartement de Proust, on sait comment c'était. Il était meublé comme mon arrière-grand-mère, Henri II, avec des cartels en bronze doré qui étaient vraiment affreux.
Mauvais goût.
Il n'avait pas de goût. Il était un peu comme si vous allez voir la maison de Voltaire à Ferney, c'est pareil. Mmh. C'est des gens qui sont entièrement dans leur tête. Et Voltaire, qui est pourtant un homme qui a écrit un poème sur le luxe, le mondain, etc., qui était très pour ça, vous allez à Ferney, il a des fauteuils moches comme tout. Proust, c'est pareil. Proust, il vivait dans des meubles moches, avec des rideaux moches, et il s'en fichait parce qu'il était entièrement dans son livre, ce qui n'est pas d'ailleurs un rapport nécessaire. Il y a parfois des très grands écrivains qui sont très raffinés. Mallarmé, qui était un très grand poète, comme nous savons, avait un fauteuil avec des pieds triangulaires, mais avec les pieds devant, qu'il avait très savamment calculé. Il n'y a pas de rapport nécessaire, mais Proust, c'était comme ça. Proust, et d'ailleurs, quand on va au musée Carnavalet, où on a conservé son manteau, les gens pensent que... Moi, j'ai vu ça beaucoup pour le 100e anniversaire. Proust était un dandy. Proust n'était pas un dandy du tout. Proust était un fils de bourgeois, tout à fait bourgeois, et vous allez au musée Carnavalet, il y a sa pelisse. C'est une pelisse d'agent de change, avec de la bonne laine noire, un colonne astracan un peu moche. C'est pas du tout un dandiste, un bourgeois, Proust.
Il correspond à son époque.
Il correspond à son époque. Oui, tout à fait.
Oui, mais justement, il était même plus de son époque. C'est-à-dire que même Morand, des années après, disait, mais sa pelisse, en fait, Marcel, quand vous le voyez, en 1913, eh ben, sa pelisse, elle était de 1905. Lui pouvait faire la différence. Mais en fait, nous, on ne peut pas aujourd'hui constater que cette pelisse est démodée. Je crois que c'était... Il paraît qu'il sortait même avec du... Il y avait encore de la ouate qui sortait de sa chemise parce qu'il s'était un peu poudré. Enfin, tout était totalement flou et c'était absolument pas un dandy. Je crois que la mise était complètement... Ouais. Il n'avait pas de belle montre. Il avait des montres à 5 francs que lui offrait Céleste.
Il portait des gants aussi. Oui, voilà. Il portait des gants en partie parce qu'il se rongeait les ongles. Il était grand d'abord. Il ne faut pas penser qu'il était petit.
Alors qu'on pense toujours qu'il est petit.
Voilà, il était grand et il portait des gants en partie parce qu'il se rangeait les ongles pour s'empêcher de ranger les ongles et il riait, il passait son temps parce que là aussi la révérence fait qu'on pense que Proust était très sérieux, etc. C'était une peau de vache comme Oriane de Guermantes, il riait beaucoup, il se moquait de tout le monde et lui-même, il y a un compte-rendu de Jean Cocteau qu'il a bien connu aussi qui a une façon très amusante de raconter que Proust convoquait ses amis pour lire des passages et lui-même pouffait de rire et en cachant ses dents derrière son gant blanc comme ça. Mais Kafka était comme ça aussi. Kafka, on pensait que Kafka était sinistre et Kafka passait son temps à rire.
Charles, vous qui connaissez si bien les écrivains, pourquoi ne dit-on jamais que Proust est drôle avant tout ? Pas avant tout, mais en tout cas qu'il est drôle, qu'il y a chez lui...
Parce qu'on ne veut pas que les gens qu'on admire soient drôles.
Mais pourquoi ?
Parce qu'on pense que l'admiration est une chose sinistre. On pense que si on veut se rembourser de son admiration, voilà. C'est un peu comme quand les gens vont voir des films comiques, ils éclatent de rire, et à la sortie, ils sortent en disant « qu'est-ce que c'était con ?» Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire on n'aime pas, on s'en veut d'admirer en ayant ri, mais... Je crois que c'est simplement ça, c'est un effet psychologique. On admire et on se dit c'est pas sérieux si on rit. Or, évidemment, d'immenses écrivains sont très drôles. Rabelais était un génie, il était drôle. Max Jacob est un des plus grands poètes du XXe siècle, il était très drôle. Mais cette idée de, je sais pas, d'esprit de sérieux, et puis nos professeurs sont là aussi à l'école pour nous donner l'esprit de sérieux. Et donc, il n'est pas question que... Et puis, ça serait tellement injuste si un homme avait du génie, et en plus, c'était drôle, et en plus, c'était gentil, et en plus, voilà. Donc, d'ailleurs, moi-même, je suis lugubre.
Est-ce que du coup, Stéphane, vous êtes justement beaucoup documenté, vous avez été beaucoup cherché comme ça, des choses qui pouvaient vous aider à attraper quelque chose, ou vous êtes vraiment complètement affranchi, comme vous le disiez
non,
tout à l'heure ?
Non, je crois que j'ai plus lu,
vous avez lu
que cherché des images, en fait.
Donc, relu le texte de 1973.
Oui, ça, absolument. Et puis,
évidemment.
D'autres choses, des écrits, des échanges de Proust avec d'autres.
Avec qui, du coup ?
Les lettres avec Reynaldo Hahn, comme... Pareil, qui soupçonne qu'il s'écrivait en se disant mon petit poney, enfin quand il écrivait à son vieux concubin, je ne sais pas comment on peut dire, sa vieille liaison.
Gallimard publie bientôt là, le journal inédit de Reynaldo Hahn, qui n'est pas mal, mais on voit plus Sarah Bernhardt que Proust, parce que Reynaldo Hahn, par bienséance probablement, a détruit les deux années les plus importantes sur Proust. Reynaldo Hahn est l'auteur d'une lettre.
Donc les deux hommes s'écrivaient, est-ce que vous pouvez nous raconter
En réalité, Reynaldo Hahn était donc le musicien qu'on connaît et il y a très probablement eu une affaire amoureuse entre Proust et Reynaldo Hahn, mais Reynaldo Hahn, qui après était devenu un monsieur très respectable, a purgé les deux années Proust de son roman et on ne saura jamais si, comme le baron de Charlus, il se faisait fouetter dans les bordels. Mais... Reynaldo Hahn a écrit une des dernières lettres qui a été écrite à Marcel Proust. Proust était malade, et réellement malade. On ne croyait pas qu'il était malade parce qu'il était génial. Il ne faut jamais se plaindre parce qu'on ne vous croit pas. Et Proust se plaignait tout le temps, tout en disant d'ailleurs une des lettres les plus drôles que je connaisse de Proust. Et il dit, et il ne plaisante pas, il dit « moi qui n'aime pas me plaindre ». Et s'en suivent 12 pages de plaintes. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on a publié un volume inédit de lettres de Proust à son voisin du dessous, boulevard Haussmann, et parce qu'il y avait des histoires de voisinage et de copropriété comme tout le monde. Et ce monsieur était dentiste. Eh bien, il n'y a pas une plainte de Proust sur ses dents, donc on peut être sûr qu'au moins il y avait une chose qui allait chez Proust, c'était ses dents. Le reste n'allait pas, mais les dents allaient. Eh bien, Reynaldo Hahn, donc Proust était réellement malade, il était très fatigué. À la fin de sa vie, Robert Proust, son frère, s'adresse à Reynaldo Hahn, sachant leur rapport de vieille amitié, sinon plus, et dit à Reynaldo Hahn, force-le à manger, parce qu'il ne... Le frère de Proust était médecin, il savait de quoi il parlait. Force-le à manger parce qu'il ne veut pas manger, il est en train de dépérir, il croit qu'il est très malade, enfin, etc. Et Reynaldo Hahn écrit cette lettre merveilleuse à Proust en lui disant « Cher ami, votre frère me dit que... ton frère me dit que tu ne manges pas assez, ça n'est vraiment pas bien, il faut que tu te sustentes. Prends simplement pour moi un peu de purée. » Moi, ces trois mots, un peu de purée, je trouve ça bouleversant. Non, mais je vous assure, c'est bouleversant. C'est un vieil ami qui dit à son vieil ami qui va être en train de mourir, mange un peu de purée. C'est beau, non ?
La fin, Stéphane, aussi, du livre, Monsieur Proust, est très beau, je trouve. Il y a beaucoup de douceur, de poésie, là encore, dans les pages, dans les dessins que vous avez faits. Est-ce que vous avez beaucoup lu sur cette fin de Marcel Proust ?
Oui, raconté par Céleste. Et puis, c'est drôle, parce que l'autre jour, il y avait je m'étais inscrit à l'amicale des amis de Marcel Proust, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, c'est sur sa fin là, et c'est assez bouleversant parce que j'ai découvert plein de choses après avoir fini le livre. C'était délicat de raconter la mort graphiquement, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les gravures faites par Helle et puis les photos faites par Man Ray, donc il fallait essayer de transposer ça, et puis il y a cette histoire de dame en noir qui voit apparaître dans la pièce, et puis qui était assez... Et puis après on oublie que c'est comme une trahison aussi la façon dont il va mourir, parce qu'il en veut à Céleste, d'après ce qu'elle aurait dit, il lui avait fait jurer qu'il n'aurait pas de piqûre, etc. Et finalement, il y en a eu une. Bon. Alors, fallait louvoyer, fallait se promener là-dedans. Alors, c'est assez... C'est marrant, le dessin, en fait, ça permet ce qu'on veut. On peut être un peu évasif. Si on n'appuie pas trop, et ben on... Voilà. C'est comme des écrivains qui raturent. Il y a des écrivains qui écrivent beaucoup, puis qui finalement enlèvent. Il faut élaguer. Enfin, il faut essayer.
Ça peut se faire ou pas.
Oui, ouais, absolument pas.
Proust ajouté.
On peut ornementer comme on peut...
Proust ajouté. Proust, c'était le super Big Mac du dimanche. Hein. C'était une couche.
Vous racontez très bien, Charles, qu'il a parlé d'autres avant tout le monde, de sujets dont personne ne parlait à son époque, et qu'il est extrêmement précurseur. Là aussi, je trouve qu'on a une image de Proust vieillotte, ce qui est celle qu'il a d'ailleurs auprès de ses contemporains. Il connaît le succès assez tard, en tout cas les 20 années qui suivent sa mort, il n'a pas un grand succès.
Non, tout à fait. Vous avez raison de dire ça, parce qu'on oublie aussi, on parle là beaucoup d'anecdotes, mais nous avons affaire à un écrivain, et mon livre porte principalement là-dessus. C'est-à-dire que je trouve que Proust, si mon livre s'appelle Proust Océan, c'est en partie parce que Proust est océanique, on en a vaguement parlé, à cause de sa façon d'écrire, mais aussi à cause de la quantité de sujets qu'il a apportés à la fiction française. Quand un écrivain apporte un sujet nouveau à la fiction, c'est une chose énorme, c'est colossal. La plupart des romanciers racontent des histoires un peu toujours les mêmes. C'est pas très grave, d'ailleurs, ça n'empêche pas d'avoir du talent, mais apporter un sujet nouveau, c'est énorme. Proust en a apporté 4 qui n'étaient pas traités avant lui. Il a apporté à la littérature mondiale le sujet...
Vous dites mondial.
Mondial, oui, puisque c'est un écrivain qui est lu dans le monde entier. Oui, et comme maintenant, je pense que Proust doit même en notoriété dépasser Victor Hugo. C'est vraiment maintenant l'écrivain le plus traduit français.
Il y a chez Gallimard, d'ailleurs, chez Folio, un livre qui s'appelle Proust Monde.
Tout à fait. Ouais. Et donc, il
qui raconte l'amour des écrivains étrangers pour l'œuvre de Proust.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il a été assez vite traduit à l'étranger. Sa première traduction est en espagnol en 1920 de son vivant. Bref, il a apporté comme sujet, qui n'était pas traité avant lui, l'homosexualité, avec le personnage de Charlus en particulier, mais l'homosexualité féminine aussi. Il y avait quelques personnages homosexuels dans la littérature, très peu. Il y a la fille d'Anglard dans Le Comte de Monte Cristo qui est lesbienne et qui s'enfuit avec sa maîtresse de musique, mais c'est à peine évoqué. Il y avait Vautrin dans Balzac, mais ça n'est pas essentiel pour Vautrin. Et puis, ce qui compte plus pour Balzac, c'est que Vautrin était un assassin. Donc, il traite ça de façon scandaleuse pour l'époque. On l'oublie maintenant. Mais d'ailleurs, Proust passait son temps à envoyer des lettres à tous les journalistes de Paris et aux éditeurs en disant « Attention, j'en parle, mais ça ne me concerne pas. C'est un sujet scandaleux. »
Et est-ce que ça choque l'époque ? Est-ce que ça choque les lecteurs de son vivant ?
Pas trop, parce qu'il n'était pas très lu. Donc,
d'accord.
Mais il apporte ce sujet, il apporte comme autre sujet le snobisme qui a l'air d'un sujet frivole et qu'il est probablement, mais le snobisme est ridicule, mais l'amour est ridicule aussi. Donc toute passion est ridicule, et ce qu'il y a d'intéressant dans Proust, c'est qu'il aborde le snobisme qui n'était pas traité non plus. Il y avait quelques articles de satiriques d'écrivains anglais avant, mais pour lui, c'est un vrai sujet. Et il le traite comme une passion, mais vraiment comme la passion du Christ. Il y a un personnage de La Recherche du Temps Perdu que le narrateur compare, qu'il appelle le Saint-Sébastien du snobisme, parce qu'il n'est pas reçu dans les bons salons, il souffre tellement. Et Proust montre ça, il montre vraiment ça comme une souffrance et comme une chose cruciale que ça peut être pour certaines personnes.
C'est le mépris, le snobisme aussi. Oui.
Il a ensuite un nouveau sujet qui, maintenant que Proust a gagné, on ne voit plus, mais Proust a apporté la tendresse chez les hommes. Les êtres de sexe masculin, chez Proust, sont tendres. Ça n'existait pas avant, nulle part. Les hommes avaient le droit d'avoir des chagrins d'amour, mais avant Proust, un chagrin d'amour, on pleurnichait un peu, on allait prendre une cuite avec les copains, on disait du mal de la vilaine qui vous avait plaqué, et puis c'était fini. Dans Proust, l'homme a droit à être tendre. C'est une révolution, hein. C'était un truc, et d'ailleurs...
Et comme on parle beaucoup de masculinité aujourd'hui, et de manière de voir l'homme, c'est ça qui l'apporte aussi.
D'ailleurs, la tendresse n'est ni masculine ni féminine.
Non, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup, cette question-là aujourd'hui qu'il y a 100 ans, par la force des choses.
Bien sûr, et le quatrième sujet qu'il a apporté et qui a mis longtemps à s'imposer, c'est que c'est le premier écrivain au monde à avoir pris pour personnage de roman, et même personnage principal, un écrivain. Personne n'avait fait ça. Maintenant, les romanciers populaires sont devenus proustiens. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Joël Dicker est devenu proustien. Il écrit, mais avant lui, ça ne se faisait pas. Et moi-même, qui suis éditeur, je peux vous dire qu'il y a bien des années aussi, encore... Quand des manuscrits arrivaient dans des maisons d'édition avec un personnage de romancier, on disait « Ouh là là, ça embêtait les gens ». Enfin, Proust a été extrêmement novateur, on a oublié ça. C'est vraiment quatre sujets apportés à la littérature mondiale.
Et pourtant, il n'est pas lu à son époque, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Non, il n'est pas lu. Moi, je raconte l'aventure du prix Goncourt au moment où il l'a eu. C'est assez fascinant à voir. C'est un prix Goncourt qui a été très méprisé. Proust était très... admiré d'une petite clique.
Rappelez-nous en quelle année il a eu donc le prix Goncourt.
Il a eu le prix Goncourt en 1919. Il était admiré d'une petite bande d'amis qui le vénéraient, qui le connaissaient, etc. Mais ils étaient 30. Et il ne passait pas pour sérieux auprès des autres écrivains de Paris. C'est pour ça qu'il a été en particulier refusé par Gallimard, pour bien des raisons. D'une part, parce qu'il était, à l'époque ça comptait beaucoup, il vivait rive droite, alors que la littérature était passée rive gauche et que Gallimard était rive gauche. Ça a l'air très, très, très bête, mais ça existait beaucoup, parce que rive droite, en 1890, ça voulait dire littérature de riche, fin du Second Empire, plutôt de droite que d'ailleurs il était, enfin, plus le côté mondain. Il avait quand même commencé comme un petit jeune homme flatteur qui écrivait des chroniques mondaines dans le Figaro, ça, donc il avait donné une mauvaise impression de lui-même. Et puis, quand il a eu son Goncourt, il a eu son Goncourt contre un écrivain combattant, contre un écrivain de la guerre de 14. Donc en 19, la littérature était remplie de romans sur la guerre de 14, ce qu'on comprend. Et tout d'un coup, ce roman-là, de ce romancier-là, gagne contre un romancier de 14 qui a été mal vu. Et puis... il s'est répandu dans le bruit que Proust, dans la ville, que Proust avait des mœurs bizarres. Et il y a même eu une revue. On l'a traité de vieux aussi. Il avait 48 ans à l'époque. On trouvait que c'était très vieux. Et parce que les Goncourt, dans le testament, avaient demandé que ce soit un jeune écrivain qui soit récompensé. Il a été attaqué par l'Humanité parce que, supposément, il ne décrivait pas d'ouvriers, qui est une chose, par parenthèse, fascinante. Il n'y a qu'aux écrivains qu'on reproche ça. Un peintre peint un tableau, je ne sais pas quoi, Cézanne peint un tableau avec des pommes, jamais un critique ne lui dit « Monsieur, pourquoi vous n'avez-vous pas peint des poires ?» Un écrivain décrit une chose, décrit une femme du monde, on lui dit « Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'ouvrier ?» Bah, parce que je ne veux pas. Et donc, l'Humanité l'attaquait, les autres l'attaquaient. Il y a eu une revue à Pigalle qui s'est créée juste après le prix Goncourt de Proust, et le numéro central s'appelait Proust ma chère. Vous voyez, pour le bon goût qui sait. Donc Proust n'était pas du tout estimé, et puis, ça, comme vous le disiez, ça a mis du temps après sa mort. D'abord, il est mort assez jeune, à 50 ans. Ses ennemis ont survécu, c'est jamais bon. Gide, qu'il n'aimait pas beaucoup, a survécu pendant très longtemps. Et puis, après, est arrivé les années 30, qui n'étaient pas très philosémites. En 40, et Pétain, c'était pas très bon non plus. Il y a eu un écrivain de chez Albin Michel, un crétin, qui était l'auteur d'un roman, d'ailleurs le titre dit tout, s'appelle « Mon curé chez les riches » et a écrit un article dans la presse pour démontrer que la guerre avait été perdue à cause de Marcel Proust. C'est quand même assez beau.
Il a subi des attaques violentes.
Mais très violentes. Très violentes. En même temps, quelle puissance avait Marcel Proust ? La guerre avait été perdue, non pas à cause du général Weygand, mais à cause de Marcel Proust. Et puis, en réalité, sa notoriété est arrivée après la Pléiade dans les années 60. Et encore, ça a été assez lent. La vraie gloire de Proust, c'est les années 1980. Donc, et je pense que d'ailleurs maintenant, la gloire de Proust est la gloire la plus fragile qui existe. Je pense que ça n'est pas gagné. Maintenant, on a l'impression, on en parle, il y a mon livre, il y a votre livre, il y a un centième anniversaire.
Il y a énormément de choses. Il y a une magnifique exposition à la BNF à Paris.
Sur France Culture, je dirige l'année Proust. Oui. Il y a une année entière d'émissions sur Proust, etc. Mais je crois que ça n'est pas gagné. On vit l'époque la moins proustienne qui puisse exister. On vit le siècle de Donald Trump. Et par miracle, Proust est là. Mais si demain, on me disait... D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai publié...
Pourtant, les libraires, Charles, disent que le fonds Proust dans une librairie marche quoi qu'il arrive, qu'il y a toujours une appétence des lecteurs pour Proust. Regardez, les gens qui sont là ont lu Proust.
Pardonnez-moi de vous contredire, mais quand l'an dernier on a publié les 75 feuillets inédits de Marcel Proust, ce qui n'est pas rien, 75 feuillets inédits de Marcel Proust, il s'en est vendu 20 000 exemplaires. L'inédit de l'aimable Louis-Ferdinand Céline, qui s'appelle Guerre, fait 200 000 exemplaires. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et il n'y a pas 200 000 lecteurs les gens n'achètent pas Céline pour la littérature. Hein. On sait très bien ce que ça veut dire. S'il y a 200 000 personnes qui achètent Céline, c'est aussi parce que c'est le nazi officiel de la France qui est dans la Pléiade, et donc c'est le nazi convenable qu'on peut avoir. Donc je pense que Proust, ça n'est pas gagné. Il y a quelques années, moi j'ai écrit dans Le Monde une tribune contre le populisme en littérature, qui a été attaquée en retour, c'est le jeu des tribunes. Eh bien, un des écrivains qui était attaqué après moi en passant dans cette tribune, c'était Proust. Dans la revue de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle « La règle du jeu » qui a paru il y a quelques mois, où on a demandé, j'y ai participé, où on demande à 200 écrivains, je crois, quel est l'écrivain, enfin, des tas de questions, et en particulier, quel est l'écrivain le plus surfait, d'après vous, de la littérature française ? Il y a 25 réponses qui donnent Marcel Proust, ce qui est énorme. Et en plus, sur le thème, beaucoup répondent sur le mode « Ah, je vois bien qu'il n'est pas fait pour moi, c'est un élitiste ». Et élitiste de nos jours, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est vite au peloton d'exécution.
On va devoir, je crois, arrêter. Non, c'est bon. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont envie de poser des questions à Stéphane ou à Charles. Personne n'ose. Alors, pour conclure, du coup, Stéphane, je voulais savoir qu'est-ce qui fait pour toi la force de Marcel Proust ? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'adapter comme ça sa vie raconté par sa dernière gouvernante.
Avant d'avoir envie d'adapter sa vie, c'est surtout l'envie de le lire et le choc que ça a été de le lire jusqu'au bout. Je pense un jour, je me suis fait la réflexion, mais que beaucoup ont dû se faire, c'était que c'était l'écrivain qui exprimait le mieux les pensées que vous aviez pu avoir à tout instant de vos vies. Il a cette façon-là. Mais oui, je n'ai jamais pu nommer, ou même des sensations très ténues, des petites choses bien plus infimes que la Madeleine, la fameuse Madeleine. Et puis voilà, c'est cette façon-là qu'il a eu. Je ne l'ai jamais retrouvé chez un autre écrivain. Il y a des écrivains qui arrivent à vous toucher en disant « Ah tiens, c'est drôle, là, il me fait rire avec ça » ou « Il arrive à m'émouvoir ». Proust arrive parfaitement, à analyser presque votre cerveau. Parce que les émotions, elles sont communes. Et moi, j'ai une histoire très étrange avec Proust, c'est que j'ai grandi dans le... Ma grand-mère habitait le village où se fabriquaient les madeleines. Donc, je m'en suis rendu compte après. Les madeleines de Commercy, j'en bouffais tous les étés. Et c'est très étrange parce qu'aujourd'hui, quand j'en goûte une, c'est des étés de chez ma grand-mère. Donc, il n'y a pas d'hasard, comme disait Breton.
L'effet fonctionne. Voilà. Ouais. Et vous, Charles, qu'est-ce qui vous touche au-delà de tout ce que vous nous avez raconté, de ce que Marcel Proust a apporté à la littérature ? Qu'est-ce qui vous touche, vous, en tant qu'homme, chez l'écrivain ?
Je dirais que...
C'est rare de voir 3 secondes de silence.
Je dirais qu'il ne sert à rien, et c'est ça qui est très beau. Voilà, c'est un écrivain absolument inutile qui est là pour une œuvre. Il a créé une œuvre qui est un objet, qui est parfait en lui-même, qui ne parle pas à notre époque, qui ne parle en rien à notre époque. Il décrit la recherche du temps perdu, c'est les funérailles nationales du 19e siècle. Ça ne nous parle pas à nous. Il enterre un monde. Donc, en fait, c'est cette inutilité merveilleuse que je trouve très bien et... Quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que c'est un écrivain, que c'est un chef-d'œuvre imparfait, qui manque des choses parce que Proust n'a pas eu le temps d'achever ni de tout corriger, et cette imperfection, Alors d'abord, évidemment, il est difficile de parfaire un livre de 3000 pages. C'est beaucoup plus facile de parfaire une pièce de théâtre de 2 heures quand on est Jean Racine. Mais ce roman où il y a parfois des répétitions, où il y a quelques erreurs, montre l'humanité de Proust derrière l'auteur. Et ce que je trouve d'extrêmement rassurant, c'est que nous avons affaire à un génie et que ce génie est imparfait. Ouf. Ça veut dire que c'est un être humain et qu'un être humain est capable de faire ça. La perfection est pour moi une chose au fond funèbre. Pour moi, la mort est la perfection, voilà. Rien n'est plus parfait qu'un squelette, c'est symétrique, c'est blanc, c'est propre, etc. Eh bien, Proust, c'est imparfait et c'est un homme, ça veut dire on peut le refaire.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.